Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Dutiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Dutiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Dutiyampi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Tatiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Tatiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Tatiyampi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Voilà, l'enseignement de ce soir a trait à l'attitude et aussi la possibilité de développer une certaine confiance en lien avec le processus méditatif. Et il y a quelques points qui sont absolument essentiels, me semble, à pouvoir entendre. Et surtout, il y a cette dimension de vous entendre, pour nous de vous entendre. Lors des entretiens en groupe et aussi pour Sandrine hein, en individuel et peut-être d'apporter quelques éclairages en lien avec justement cette dimension de la confiance. Quand on s'engage dans une pratique comme celle-ci, je pense que pendant un assez long temps en fait, en tout cas pour ma part, hein, je peux parler pour moi, ça, mais je pense qu'à vous entendre, c'est aussi le cas. Pendant un assez long temps, il y a ce désir, même cette envie, ce besoin de changement qui est très fort. Vous l'avez remarqué, hein? Cette envie de changer, que ça avance, que ça bouge. Hein? Et il se peut que l'attention se fige à cet endroit. Est-ce que je change ? Est-ce que ça va mieux ? Est-ce que ça va moins bien ? Est-ce que ça correspond à mes attentes ? Est-ce qu'il y a quelque chose pour moi ici ? Sans compter que peut-être que dans 2 jours, je m'en vais. Donc, c'est très intéressant de se rendre compte de ces aspects et de ces phrases et de ces réflexions par moment qui sont là et qui sont tout à fait judicieuses. Je pense que l'autre soir, j'ai parlé un petit peu du doute, doute sceptique, dans le sens de tourner en rond, mais il y a aussi des questions qui peuvent être judicieuses dans le sens d'un questionnement. Et le questionnement nous permet quelque part un éclairage, dans le sens d'investiguer le sens, le pourquoi. Même si ici on parle beaucoup du comment, eh bien le pourquoi a aussi sa raison d'être. Donc cette tendance de se fixer sur un objectif, et ça je pense que c'est quelque chose qu'on peut remarquer, est naturelle. Parce que c'est déjà notre manière habituelle, schéma, dans notre vie pour quelque part atteindre un but. Donc la plupart des personnes vont vivre ceci. Est-ce que vous ne l'avez pas vécu ? Levez la main, puisque vous ne pouvez pas parler. Vous ne l'avez pas vécu ceci ? Oui. Je pense qu'on l'a tous et toutes vécu. Je m'inclus complètement dans cette perspective, dans cette démarche. Et très souvent, ce qui s'ensuit, c'est justement cette dimension de figement qui fait que ben, ça ne va pas assez vite. Ça ne va pas assez vite, on a envie d'avoir des résultats instantanés. Généralement, c'est ce qui se passe. Hein. Maintenant, on est tellement prompt à pouvoir avoir des résultats instantanés. Et on a tendance à mesurer, à évaluer le fruit de la pratique par rapport à l'obtention de cet objectif qu'on s'est fixé. Assez logique. Hein? Et donc cette évaluation, cette tendance de revenir, d'avoir vraiment quelque part une mesure, une évaluation, elle va soit nous éclairer, soit nous figer. Donc il y a deux types là de modes de rapport, et je pense que c'est très important de pouvoir se rendre compte de qu'est-ce qui se passe véritablement en lien avec ce que je suis en train de décrire. Pour chaque personne, ce sera différent, à différents moments. Donc, ce n'est pas quelque part un absolu. Hein. Avec le temps, si on laisse le processus et surtout qu'on s'intéresse, qu'on persévère dans la pratique, eh bien, on y voit un petit peu plus clair par rapport à cet aspect. On y voit un petit peu plus clair. En tout cas, pour ma part, ça m'a vraiment éclairée dans le sens de me poser les questions, mais les questions qui ne sont pas des questions arrêtées. Oui, on a des fois des questions arrêtées. Et qu'est-ce que ça veut dire, une question arrêtée? C'est qu'on veut quelque part se figer au niveau des certitudes. Et on reste quelque part contraint à des certitudes. Certitude de ne pas y arriver, certitude de ne pas pouvoir, certitude d'avoir du doute. Toutes ces dimensions-là qui font que quelque part on se freine soi-même. Donc, le désir de changement est tout à fait normal et il est perçu comme un type d'expérience dans cette pratique qu'il est nécessaire d'explorer de manière ouverte. C'est-à-dire qu'on se donne de l'espace. Ça fait partie de l'expérience, mais sans devoir s'arrêter. Donc c'est tout à fait bon signe lorsque ceci se passe et qu'on en prend conscience. Avec un objectif particulier, ça devient problématique. C'est-à-dire que si on veut un résultat particulier, ce peut-être pourquoi on est venu, hein, qu'on ait une attente et qu'on a vraiment quelque part un domaine très clair qu'on veut investiguer et puis que ça ne s'est pas passé, bien avec cet objectif particulier, la problématique, c'est que le futur et ce sur quoi on se focalise, d'accord ? Plutôt que de rester au contact du présent, comme on vous le répète à longueur de journée, d'une manière ou d'une autre. Voilà, donc on a cet aspect qui fait que quelque part, on se quitte et on va quelque part se figer. On se focalise sur le futur et on va être en attente d'un résultat particulier. Et ce mouvement-là, si on n'en prend pas conscience, mais vraiment dans notre processus, dans notre rencontre, dans notre manière de marcher, dans notre manière de voir la pratique, dans la manière dont on est en sa propre compagnie, eh bien, ce mouvement du devenir nous sort de nous-mêmes. Nous sort de nous-mêmes. C'est quelque part cette dimension qui fait que quelque part on est porté au loin, on est projeté à l'extérieur de soi. Et ça, on le connaît bien. Je ne sais pas qui n'est pas projeté par moment à l'extérieur de soi. Je crois nous tous, à un moment donné. Mais donc déjà de sentir que la présence corporelle, la présence physique, comme a pu l'exprimer aujourd'hui Charles en lien avec la marche, eh bien, est une attitude, une perspective de pouvoir contempler le fait de commencer quand je sors de moi, quand je fais ce pas en avant et puis que je suis vraiment là au bout du chemin alors qu'en fait je suis ici, là où on est plutôt que là où on va. C'est extraordinaire de pouvoir contempler ceci, mais d'un espace d'ouverture sans devoir quelque part s'enfermer et se tourmenter par rapport à cette suggestion, cette indication qui peut être tout à fait porteuse de réflexion et surtout d'expérience. Il y a un facteur mental dans cette pratique, dans cette méditation, qui est le facteur mental de l'intention. Chetana. Donc, avant toute action, il y a une intention. On en est conscient ou pas? Alors ça, c'est clair que la plupart du temps, on n'est pas conscient de l'intention avant d'agir. Hein. On agit. Voilà, on est propulsé à agir, à aller de l'avant. Mais ce facteur mental de l'intention, dans le lien avec ce qui nous intéresse ici, en lien avec l'enseignement bouddhiste, est bien différent d'une intention placée pour un objectif futur. Cette intention, elle n'est pas en but d'un accomplissement particulier ou d'un objectif, elle n'est même pas orientée vers l'avenir, c'est une intention placée au présent. L'intention d'être présent, l'intention d'être au contact, l'intention de nourrir notre propre vie intérieure. Donc c'est une intention qui est placée non pas dans un devenir, mais dans l'être. L'être. Et c'est vraiment ceci, quelque part, qui va porter son fruit, parce que c'est cette dimension-là qui va nous aider à pouvoir, quelque part, goûter à l'expérience qu'on nomme ici le vivant ou de ce qui est vécu, éprouvé, ressenti, voilà, qui a une certaine saveur et qui n'est pas quelque chose qui est projeté vers l'extérieur. Donc, l'intention, si vous voulez, de nourrir la pleine conscience, eh bien, elle est exactement au même lieu que de ressentir cette qualité de pleine conscience. Donc, l'attention et l'intention vont ensemble. C'est réuni, ces deux aspects. L'intention va nourrir l'attention. L'attention peut nourrir une intention renouvelée à chaque instant au contact de ce qui se présente, quelle que soit l'expérience. Donc, ce qu'on réalise, ce n'est pas qu'on isole le présent. Ce n'est absolument pas ça qui se passe. C'est au contraire vivre au contact d'expériences présentes, quelles qu'elles soient, diverses et variées, et qu'à ce moment-là, on commence à pouvoir goûter à un flot continu, changeant, d'un processus dynamique qui se renouvelle et qui défile, et qui est quelque part le goût de la méditation provient de ce contact à sentir, l'impermanence, ressentir comment sa vie en soi-même. À ce moment-là peuvent émerger certaines prises de conscience. Ces prises de conscience ne sont plus basées dans le devenir, qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer ou autre. Ces prises de conscience, comme on les appelle par moments des insights, c'est-à-dire réellement des réalisations, on peut dire, des réalisations, elles proviennent à ce moment-là de l'espace intuitif, c'est-à-dire du vécu, de ce qui est éprouvé, et non pas de la réflexion. Donc c'est absolument génial de pouvoir commencer à goûter ceci. Et très souvent, c'est une surprise. Quand on dit « waouh, il y a eu un insight » ou quelque part un éclair de lucidité ou une compréhension profonde qui provient de cet espace-là, bien, il y a une surprise. C'est « waouh, ça vient d'où ça ?» Et on n'a pas eu tout un cheminement de réflexion pour sentir cette réalisation ou cette prise de conscience. Pourquoi ? Parce qu'il y a cet aspect intuitif. Et donc la méditation va nous amener tranquillement à avoir une plus grande confiance dans de vivre dans cet espace plus intuitif. Intuitif voulant dire ici qui ne passe pas par le concept, justement, qui n'a pas besoin de passer par la notion, les idées, tout ce qu'on utilise généralement, le langage, le nommer, ça émane d'un espace quelque part beaucoup plus immédiat. On va dire ça, immédiat. La réflexion, c'est quelque chose que on va naturellement gamberger. Donc immédiatement, il y a ça, puis tout à coup, il y a un éclaircissement. Je peux tout à fait, l'instant d'après, dans ce processus, voilà, réfléchir à ce moment-là à ce qui a eu lieu il y a une seconde, à dire waouh, mais il s'est passé quoi là? Et puis avoir quelque part à ce moment-là un processus de réflexion qui me permet de comprendre la chose par le biais de ce qu'on connaît très bien, la réflexion. D'accord? Donc il y a vraiment des étapes là qui sont extrêmement claires et qui permettent une compréhension plus profonde de notre processus, mais aussi de nous-mêmes, bien sûr. Ça révèle d'une façon très, très claire ce qui se passe. Par exemple, on peut très bien avoir aucune notion d'une émotion, et puis tout à coup, ben, au contact du ressenti, dans le physique, dans cet espace, il n'y a pas simplement une sensation physique, il y a une émotion. On se dit, waouh, c'est incroyable, il y avait en fait quelque part une émotion au lien et au contact de cette sensation physique. Donc tranquillement, c'est quelque chose qui va émerger si on n'est pas constamment en train de sortir de soi. Si on veut un objectif particulier, le devenir, chercher à trouver quelque chose qui ne serait pas là, eh bien, ça ne nous permet pas ce que je viens de décrire. Parce qu'on est constamment à l'extérieur, à distance si on veut, de ce qui est en train véritablement de se passer en nous. On passe à côté. Ça a du sens. Donc pourquoi on l'appelle pratique? Eh bien, parce que, quelque part, c'est un processus qui est vivant et qui se met en place et qu'on découvre ici ou ailleurs. Dans notre vie, ça peut être tout à fait clair que ce n'est pas uniquement Marel dans une situation extrêmement particulière, extrêmement tranquille, que ceci peut se passer. Il y a plein de moments où on peut avoir quelque part ces intuitions, ces compréhensions, ces éclairs, et qui fait qu'à ce moment-là, on est plus dans un espace d'ouverture, d'accueil, de vivre les expériences comme elles nous viennent, c'est-à-dire comme on les reçoit. À ce moment-là, ça nous donne un changement qui s'opère, qui est assez extraordinaire, et qui est clairement quelque chose qu'on n'a pas, en tout cas, pour ma part, j'ai mis un certain temps pour découvrir ceci dans la perspective de la méditation. C'est quelque part que ce changement de pouvoir percevoir ce désir d'un objectif particulier, de vouloir autre chose, de vouloir une autre expérience. Si ça tombe et puis qu'on accueille un tout petit peu plus ce qui se passe, eh bien, on peut passer d'un état de non-acceptation à un état d'acceptation. C'est-à-dire qu'il commence à y avoir un petit peu plus d'accueil. Il commence à y avoir quelque chose qui fait qu'on n'est pas tellement focalisé sur le futur, l'avenir, ce qui pourrait être, ce qui ne serait pas, voilà, tout ce qu'on connaît. Et il y a moins de crispation, il y a plus de détente, et du coup, il y a plus, quelque part, de contact avec ce qui se passe véritablement. La pratique commence à ce moment-là à nous nourrir. C'est-à-dire qu'on est, tout à coup, on se dit, mais waouh, en fait, ça m'enrichit. Je suis nourrie, mais tant qu'on est en train de chercher ailleurs, on ne va pas pouvoir sentir, quelque part, le bénéfice que pourrait nous apporter la pratique. Vous le comprenez, ceci? Alors, il faut du temps pour pouvoir, quelque part, non seulement intégrer ce que je dis intellectuellement, mais le vivre. Le vivre, parce que ça prend du temps de passer de désir de changement à accueil de ce qui est pour vivre effectivement quelque chose qui s'apparente à une confiance intérieure et qui dit « Waouh, mais en fait, le processus de la transformation provient de ce que j'accueille, de ce que je reçois, de ce que je permets, de ce que je consens. » plutôt que de ce que je veux obtenir. Donc j'ai dit l'autre soir, il ne s'agit pas de vouloir, mais de voir. Je le répète. Donc cette dimension-là, cette perspective-là, elle est immensément importante. Parce que sinon, on peut vraiment rester des heures et des heures, des jours, des mois à se taper la tête contre le mur pour essayer de comprendre et trouver quelque chose qui ne va pas pouvoir être trouvé dans cette perspective de se donner de l'espace, ouvrir, élargir. Et donc, cette dimension d'accueil, elle amène beaucoup de légèreté. Lorsque c'est pesant, lorsque c'est lourd, lorsque vous dites, oh mon Dieu, non, encore une journée, c'est un fardeau, c'est que quelque part, il n'y a pas la possibilité de consentir à ce qui se passe. Donc, c'est moins, c'est pas vivant, c'est lourd, c'est pesant. Donc, plus spacieux, plus léger, plus heureux, plus joyeux, c'est possible. Et beaucoup provient du fait de notre rapport à l'expérience. Donc c'est très utile par moment d'éclairer ceci, cette dimension de notre attitude, le rapport, et de faire confiance au processus. Faire confiance au processus. Plutôt que de s'agripper à tout prix vouloir un changement. Donc, il y a deux attitudes là. Important de distinguer entre deux types. Voilà, celui qui prend en compte la réalité de qu'est-ce qui est en train de se passer véritablement. C'est-à-dire que on a là un accueil, une ouverture, une proposition de pouvoir quelque part s'intéresser à ce qui se passe véritablement ici et maintenant, quelle que soit cette expérience. Donc, souhaiter vivre le plus possible à se dire, tiens, je peux m'intéresser à ce qui se passe. Plutôt que l'autre type que j'ai décrit assez longuement, qui est ce type de désir de vouloir un changement qui provient du fait de notre volonté. Notre volonté va créer quelque chose qui s'apparente à imposer. C'est une injonction. Et de cette injonction, il y a beaucoup de fatigue. Et de cette fatigue, eh bien, il y a à ce moment-là un découragement. Donc ça revient aussi à cet aspect dont a parlé Sandrine il y a quelques jours, au sujet de l'effort. À nouveau, de vérifier vraiment son attitude en lien avec un effort qui a pour conséquence un rapport beaucoup plus intime, beaucoup plus proche de ce qui est au contact de la réalité, plutôt qu'un effort qui nous pousse à l'extérieur. Et ça, c'est vraiment, mais pour tout le monde, tout le monde, sans exception, qu'on va avoir à explorer ceci. Voilà, donc favoriser quelque part une attitude qui nous permet de rester en lien, au contact de ce qui est, plutôt que de ce qu'on veut. Et par moment, bien sûr, on va se rendre compte que, ben oui, on veut quelque chose qui n'est pas là. Ben oui. Ben oui, il y a plein de moments où on se rend compte de ceci. Ben oui, je veux quelque chose qui n'est pas là, ou je veux plus quelque chose qui est là. Et puis ça aussi, eh bien, on en tient compte et on peut quelque part aussi accueillir cet aspect-là qui est de l'ordre d'une résistance. C'est absolument essentiel d'avoir cette attitude. Et de l'entendre, ça peut nous aider. Vous voyez, c'est qu'est-ce qui peut m'apporter quelque chose, qu'est-ce qui va m'aider plutôt que quelque part mettre en place quelque chose qui nous empêche d'être en lien, d'être plus léger, plus content, plus en lien, plus en paix. Donc il y a quelque chose de très naturel ici, en fait. Et l'exemple qui est donné très souvent, c'est le soin qu'un jardinier prend à soigner ses plantes. J'ai la chance, vous savez maintenant, hein, que j'ai un petit chalet dans la montagne. Voilà. Mais il est assez haut, hein, dans la montagne, il est à 1000 mètres. Et puis, je suis toujours là au printemps, je suis là à dire, il y a quelques roses, et puis il y a tonnes de fleurs et autres. Puis comme je n'ai pas beaucoup l'occasion d'y être, malheureusement, je suis là et je piétine d'impatience. Et puis je me dis, mais c'est incroyable quand même, la croissance. elle est lente, mais pourquoi elle est si lente? Puis je me dis, mais en fait, voilà, c'est la nature, c'est tout. Et puis c'est extraordinaire parce qu'on a cette même attitude par moment. Nous, voilà, la croissance, elle est lente. Ça ne me viendrait pas à l'idée de tirer sur les pétales pour voir les roses, hein, je veux dire, pour que quelque part avoir, quelque part le. Ce serait absurde. Eh bien, par moment, on peut se rendre compte qu'on tire, nous, sur nos pétales, vraiment. Pour que ça pousse plus vite, pour atteindre un résultat. C'est absolument extraordinaire de percevoir ceci. Donc, on prend soin de cultiver certaines qualités, on prend soin de vraiment avoir aussi un accueil, une ouverture, tout plein de tendresse, de bienveillance. Tout ceci a du sens, dans le sens de pouvoir donner du temps au temps, de respecter le rythme. Et c'est vrai, je vous l'accorde, c'est d'autant plus difficile en 2024 que quand moi j'ai commencé en 1900. Non, je ne le dirai pas. Des années 80. Voilà. Non, mais c'est vrai, c'est absolument vrai. Parce que le rythme est tellement effréné qu'on se dit non, mais c'est ce rythme-là auquel il faudrait que ma pratique avance. Et c'est contre nature. On est vraiment dans un. Mais c'est insensé, le rythme qu'on nous demande. D'ailleurs, il y a des personnes qui ne peuvent pas s'adapter. Et il y a beaucoup de personnes qui, peut-être, voilà, récupèrent ces ressources quand ils viennent justement à une retraite de méditation pour se dire, tiens, waouh, ah ouais, peut-être que. Il y a quand même un bienfait à être un peu moins affairé, actif. On parle beaucoup de ça parce que c'est vrai qu'on s'attend dans la méditation à avoir un petit peu des progrès rapides. Et c'est tout sauf ça, comme on le sait. Donc l'attitude d'intervenir pour quelque part essayer d'obtenir, eh bien, est contre-productif. Mais on va voir ceci. Parce que ça fait partie de notre façon de d'être, d'agir pour. Donc, comment est-ce que j'interviens? Voilà. Et c'est très intéressant de vous poser la question et de remarquer comment est-ce que j'interviens qui fait que quelque part, je ne suis peut-être pas en train de respecter le rythme de ce qui se passe, le rythme de respiration, le rythme de la digestion, de l'intégration, de la réceptivité. Donc on intervient et ce qui se passe, c'est qu'on se crispe. On se crispe, on s'agrippe, on se fige et on crée des tensions en soi-même. Donc c'est pas, ah, il y a des tensions qui sont arrivées. Non, on les quelque part, on les crée parce que nous sommes dans une disposition de inverse à l'accueil, à l'ouverture, au consentement de ce qui est. Donc ça, ce sont des schémas d'habitude. On va les retrouver ici, surtout si ce sont des tendances qui sont présentes dans notre vie quotidienne. Mais comme on est dans une perspective de découverte un petit peu plus profonde et qu'il y a un moment donné où tout à coup, ben, on ne peut pas constamment intervenir, hein, vous êtes d'accord? Donc, il y a des moments où tout à coup, on lâche. J'espère qu'on ne lâche pas uniquement par désespoir de cause, mais que des fois, ben, ça lâche parce qu'il y a un aspect qui fait qu'on a tout simplement l'envie. On s'intéresse à ce qui se passe ici et maintenant dans notre contact avec ce qui est. Donc notre manière de faire confiance, tranquillement avec ce processus, nous met aussi en lien, en rapport avec notre manière dont on a de vouloir contrôler. Ce qui se passe au niveau de l'agrippement et crispation, c'est qu'il y a un maintien dans notre façon de contrôler en pensant et en ayant quelque part en conscience qu'on va, en contrôlant, en maîtrisant, établir un certain sens de sécurité. Et malheureusement, c'est pas vraiment ceci qui se passe. Vous voyez, quand par exemple il y a une douleur ou qu'on a quelque part pas envie d'avoir mal, émotionnellement par exemple, eh bien, voilà, la contraction. On se coupe de ce qui est véritablement en train de se passer, ce qui a besoin d'être rencontré, peut-être la sensation physique qu'on nomme douleur ou l'émotion difficile. Et donc, le maintien, quelque part, de la distance est un type de contrôle qui nous fait croire qu'on est en train d'échapper à la douleur. Et c'est une immense illusion. Alors ça, je veux dire, c'est déjà quelque chose qu'il est important de pouvoir contempler intellectuellement, je dirais, et de le vivre tranquillement, par moments, par petites bribes, de percevoir que ce contrôle est un échappatoire. Une forme d'évitement, et il nous donne l'illusion de la sécurité. Donc ça, c'est ennuyeux. Parce que c'est l'illusion, c'est pas la sécurité. Ce qui veut dire que on a l'illusion que quand on se met à distance, eh bien, c'est la fin de la douleur. Eh bien, c'est pas vraiment ce qui se passe. Il y a simplement une mise à distance. Et donc notre manière de maîtriser la situation, qu'on pense, va exactement à l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a une saisie. Et une façon de ne pas s'ouvrir. C'est exactement comme ceci que l'on va peut-être aller dans le sens d'une absence de confiance. Mais c'est aussi certain que ce contrôle, on va le rencontrer. En tout cas, moi, je l'ai rencontré très souvent. Cette façon de se dire, waouh, c'est super, c'est au fait ma limite, voilà, entre ce qui est connu et ce qui est inconnu. C'est vraiment le fil du rasoir, je dirais. Où on est là, ouh, ok, ça, voilà, je repère, j'ai des repères. Et tout à coup là, je suis là, et c'est comme si on était sur le flanc de la montagne. On se dit, voilà, mais là, c'est, voilà, ouh là là, le vide absolu. Et on s'imagine l'abîme. L'abîme. Et donc, on reste là, figé, là, ouais, contrôle. Et du coup, c'est absolument génial de pouvoir vivre ceci, mais en même temps, de rester là, en disant, ok, je m'agrippe, je me contracte, c'est ok, mais je le vis, ça. C'est pas ne pas le vivre, au contraire, tout est inclus. Donc, on le vit, on vit ceci. Ça porte son lot de problèmes, mais si on ne le vit pas, on va rester confiné. Vous vous souvenez comment on était confiné? Waouh! Quel manque de liberté. C'est incroyable ce qu'on a vécu là. Donc là, il y a une limitation qu'on crée qui provient quelque part de notre manière de nous positionner, mais de rester vraiment très clairement dans peut-être une position de figement, quelle qu'elle soit, contraction, figement, saisie, voilà, et de pouvoir Restez là et tranquillement à cette place-là, cet endroit, apportez un petit peu de tendresse, délicatesse, douceur, metta, qualité de présence. La présence, elle est sans attachement, sans aversion. Et s'il y a de l'aversion, ok, l'aversion, c'est ok. Comment c'est l'aversion ? Il peut y avoir de la peur. Très souvent, il y a de la peur, là. La peur. Eh bien, cette peur, c'est une émotion. La peur, en elle-même, elle n'est pas un problème. C'est tout ce que je construis autour qui devient un problème. Donc, c'est une manière, quelque part, de pouvoir établir un climat de confiance. Exactement dans le lieu où on est dans une situation peut-être un petit peu difficile. Mais pas en étant dans l'évitement et puis à se dire, voilà, ce sera peut-être pour la prochaine retraite. Hein, que je... en 2030. Faut pas être trop sérieux. Je vous assure que vraiment, rire un peu, ça fait du bien. Hein. Donc, si vous n'en avez pas l'envie, tant pis pour vous, mais moi, c'est absolument indispensable que d'être un petit peu léger dans ce processus. Ça ouvre, ça amène de l'air. On a besoin d'air. Et surtout quand je parle de choses qui peuvent créer justement un sentiment d'oppression, de limitation, de figement, de contrainte. Donc, ce n'est pas du tout la manière dont on échoue, où on se dit « Oh là là, mon Dieu, mais là, alors je suis vraiment léger. » Non, au contraire, c'est génial d'échouer de cette façon. Extraordinaire. Donc, nos erreurs, là, sont vraiment des pépites d'or. Voilà. C'est, je reste là et tranquillement, la confiance au contact de la peur peut prendre le dessus. Il y a une qualité de présence qui prend le dessus et c'est en vérité notre manière de sentir qu'il y a une ouverture, une évolution intérieure. Une évolution intérieure, c'est-à-dire qu'on est moins figé. C'est simplement le pouvoir de la limitation, nos croyances, nos idées, tout ce qui s'apparente à tout ce qu'on peut fabriquer mentalement, qui simplement pouf, tombe un petit peu. Et on est en contact, véritablement, avec ce qui se passe, tranquillement. Moins de contrôle, plus de contrôle. Ouverture, espace. Donc, ce qu'on croit être le trou noir, certaines personnes disent « Ah, mon Dieu, le trou noir, le vide, je ne sais quel type de représentation on a chacun les nôtres. Hein. » Moi, je sais que j'avais la pieuvre, voilà. C'était ma pieuvre. C'est vraiment fascinant. Après, on a chacun le tigre, enfin voilà quoi, tout ce qu'on peut représenter de, de fascinant par rapport à tout ce qu'on peut avoir comme animal qui nous effraie complètement, voilà. Eh bien, ceci sont des représentations et quand ça lâche un petit peu, on se dit ouais, et je tombe dans un lit de pâquerette. Comme c'est merveilleux. Et c'est vraiment ça qui se passe en réalité. Tout ce que j'ai pu croire comme croyance, de me dire « Ah, ça va être horrible, c'est pas beau, là, là !» Eh bien, il peut y avoir de l'espace, la joie, la tranquillité, ou je ne sais, il y a mille manières de pouvoir sentir à ce moment-là le contact véritable avec « Ah, ok, c'est ok, il n'y a juste plus de contrôle, plus de... » Être en vie, profiter de la vie. Donc, des fois, on est sous l'emprise du contrôle, mais des fois, on peut aussi sentir cette liberté. Je vous le souhaite, vraiment. Que le même lieu, comme l'a dit Cha, le même lieu, le lieu de la solution est le lieu du problème. Voilà. Et donc, dans ce même lieu, il y a cette dimension de sentir, mais Libre. Libre. On a simplement, quelque part, permis à la vie de nous traverser. La peur me traverse. Ok, la peur me traverse. Et si je ne construis pas plein d'histoires autour de la peur, ouf, c'est comme une petite brise, là. Bon, c'est un peu moins agréable que la brise, mais elle peut, quelque part, me traverser. La peur me traverse, la tristesse traverse. Et on n'en fait pas quelque chose. On n'est pas en train de s'arrêter pour, quelque part, devoir maîtriser, contrôler. C'est fou, hein, tous ces repères. C'est extraordinaire dans la retraite, hein. Vous avez, vous aussi, eu... Hein, on met vite en place les repères, non? Là, on n'est plus à la maison. Mais on est exactement à la tasse là, et puis mon lieu de méditation, mon assise, j'aime marcher là, et puis on crée vite, hein, des habitudes, des repères. C'est dingue. Parce que voilà, c'est ça, je vais, hein, j'ai la sécurité. Mais c'est une illusion. Donc changer un petit peu vos repères, là. Jouez avec ça. Jouez un petit peu avec ça. Il y a quelque part, c'est incroyable combien on peut être intimidé, hein, par la liberté. Mais on la gagne. Si on doit choisir ce qui nous semble certain, ben, sûr, plutôt que ce qui nous fait évoluer ou grandir, j'ai bien peur qu'il n'y ait pas grand-chose qui se passe. Donc, permettre, voilà, vivre, accepter de sentir les résistances, accepter les limites, mais continuer à être quelque part intéressé pour ne pas rester enfermé dans des habitudes qui sont forcément des contraintes. Donc, on se frotte. On se frotte là où, quelque part, on sent le contrôle pour pouvoir être certain, quelque part, qu'on peut être sensible et puis qu'on peut s'ouvrir à la vie. Simplement s'intéresser à elle et la laisser se dérouler comme ces belles petites roses qui ont finalement montré le bout du nez début juillet, à 1000 mètres. Bon, il a beaucoup plu, hein, donc c'est clair qu'il y avait peu de soleil, voilà. Mais waouh, c'était magnifique quand c'est arrivé. Pardon. Ouh, ça va être très désagréable, ça. Donc, ce sentiment d'insécurité, eh bien, il va naturellement dévoiler l'absence de confiance. Mais la confiance, on peut la nourrir. Puissais-je me souhaiter d'avoir confiance? Puissais-je me souhaiter de laisser le processus se dérouler? Puissais-je accueillir? Vraiment, des petites phrases comme ça, par moment, peuvent absolument nous aider. Moi, je sais que j'ai beaucoup de manières de pouvoir, quelque part, m'accompagner dans le sens, bien sûr, méta, c'est comme vous le savez, hein, mais de m'aider, mais vraiment dans le sens de pouvoir aller dans le sens de la liberté plutôt que nourrir l'inverse. C'est délicat, mais les résistances ne sont absolument pas des faits établis, ce sont simplement des états passagers. Donc, on est vraiment dans un chemin d'inclusion. Donc, ça ne sert à rien de s'épuiser à lutter contre, de se fatiguer inutilement ou de rester figé. À partir de là, il y a naturellement une dimension d'abandon. Mais pas d'abandon dans le sens d'abandonner parce que, voilà, on lâche tout. L'abandon dans le sens de l'ouverture au sens complet. On interfère moins et à ce moment-là, la confiance grandit et c'est la présence qui prend le dessus. Comme dit Saint-Exupéry, il dit « Quand on s'abandonne, on ne souffre pas. » C'est beau cette phrase. « Quand on s'abandonne, on ne souffre pas. » Donc on gagne en liberté. En gardant l'esprit ouvert pour sentir. Et très tranquillement, il y a cette dimension de pouvoir aussi, à ce moment-là, accueillir les moments de résistance lorsqu'ils sont présents. La résistance fait partie du cheminement. Et tranquillement, le discernement émerge. On a cette vision pénétrante, c'est ce que veut dire Vipassana, et ça permet de rester au contact de la réalité, encore un petit peu plus, encore un petit peu plus, encore un petit peu plus, et on se sent nourri. On accepte simplement ce qui est. La réalité, c'est rien d'autre que ce qui est. Plutôt que de refuser la vie. Voilà, je vais terminer avec un tout petit texte de Achancha, le maître de la tradition thaï de la forêt. Il dit « Accepter la réalité ne signifie pas se résigner ou subir ce qui se passe. Accepter la réalité de ce qui est n'est pas une attitude passive. C'est simplement reconnaître que les choses sont comme elles sont. Accepter la réalité, c'est être capable de ne pas porter de jugement et de ressentir ce qui se passe en le voyant tel quel, et non tel qu'on aimerait que ce soit. Accepter la réalité de ce qui est ne va pas changer l'avenir, mais cela évite beaucoup de souffrance. Quand il n'y a absolument pas de différence entre ce qui est et ce que l'on perçoit, il n'y a plus de place pour la souffrance. Il n'y a pas de distance. Chaque moment est reçu tout simplement comme il est. Nous n'essayons pas de changer l'expérience, quelle qu'elle soit, ni de l'améliorer d'une manière ou une autre. Ceci se nomme liberté intérieure. Quand il n'y a absolument pas de différence entre ce qui est et ce que l'on perçoit, il n'y a plus de place pour la souffrance. Chaque moment est reçu comme il est, nous n'essayons pas de changer l'expérience, quelle qu'elle soit, ni de l'améliorer d'une manière ou d'une autre. Accueillir les choses comme elles sont. Et ce n'est pas de la résignation, c'est du consentement. Ceci se nomme liberté intérieure. Donc vraiment, je vous donne ma confiance. La confiance dans le chemin, c'est quelque chose d'extrêmement, extrêmement précieux. Et de pouvoir quelque part goûter à ceci par petites bribes au début. Et puis bien sûr qu'à ce moment-là, le fleurissement, le cheminement intérieur, cette liberté peut croître. Voilà, donc nous allons chanter le chant de l'impermanence et de Metta et le partage des bienfaits. Et donc tout ce qu'il y a sur cette page, si vous n'avez pas envie de chanter, ben vous ne chantez pas. Vous pouvez tout simplement rester en silence et nous écouter. Anicca vata sankara upadavaya damino Upakitu wa niruchanti te sangupasamo sukho anicca vata sankhara upadava yadamino upakitu wa niruchanti te sangupasamo sukho anicca vata sankhara upadava yadamino upakitu wa niruchanti te sangupasamo sukho aham avero homi abhyapajo homi anigo homi sukhiyatanam pariharami sabbe satta avirahantu abhyapajahantu anigahantu sukhiyatanam pariharantu imam no punya bhagam sabha satanam dema sabbe satta sukhita hantu sadhu sadhu sadhu. Puissions-nous partager les bienfaits de notre pratique d'aujourd'hui avec tous les êtres sans exception. Puissent tous les êtres vivre en paix et être heureux. Ceci est notre souhait.